Anne Riner, L'homme fourmi, 1901. Avant de conter mon incroyable métamorphose et les étranges aventures de ma vie de fourmi, il me paraît d'une bonne méthode de dire celui que j'étais à l'heure de la surprise et de résumer en peu de lignes mon existence antérieure. Ces premières pages me seront difficiles et humiliantes. Depuis l'étonnante épreuve, mes idées et mes sentiments ont bien changé. L'homme que je suis méprise justement l'homme que je fus. Je vais essayer de ressusciter un instant l'être méprisable et méprisé. C'est à lui que je dois donner la parole d'abord. Autrefois serait inexactement peint sans les couleurs d'autrefois, et je ne puis expliquer une période de mon existence qu'en retrouvant le ton dont je parlais alors et le rythme sur lequel je pensais. Je m'appelle Octave Marius Péditant. Je suis né le 8 avril 1875 à Château-Arnoux, dans les Basses-Alpes, de parents considérés riches pour notre village et fiers de leur supériorité de fortune. Tant en terre et autres immeubles qu'en argent solidement placé, ils possédaient plus de 200 000 francs. Par malheur, eux, si sages, si sobres en tout le reste, ne surent point limiter le nombre de leurs enfants. J'étais l'aîné et, dès mon plus jeune âge, j'annonçais d'heureuses dispositions scientifiques. Ils n'eurent pas la justice de comprendre ce qui était dû à mon intelligence. Pourtant, si j'étais resté fils unique, si j'avais eu assez de revenus pour vivre sans travail forcé, pour consacrer tout mon temps aux études que j'aimais, j'aurais pu devenir un économiste de premier ordre, l'égal de M. Paul Leroy Beaulieu ou de M. Baudrillard. Hélas, on me donna 6 frères et 4 sœurs. Et encore heureusement, mon père mourut très jeune sans avoir le temps matériel de compléter la douzaine. Quoique je parle avec une raison inflexible même quand il s'agit des miens, je ne voudrais pas qu'on me prie pour un mauvais cœur. Ce jugement serait injuste. En voici la preuve. Mon père était mort intestat. Je pouvais à ma majorité réclamer mes droits. Je n'en fis rien. Je laissai ma bonne mère, tant qu'elle vécut, jouir de ce qui m'appartenait. Et même mon frère Bienvenu et le mari de ma sœur Désirée, ayant voulu demander le partage, je leur montrai ce qu'il y avait d'inconvenance à une telle précipitation. Je leur dis combien nous y perdrions dans l'estime de nos compatriotes. Je leur fis remarquer que notre mère, très malade, n'avait plus que peu de temps à vivre. En un mot, jugeait de mon autorité d'aîné et de savant contre mes intérêts. Et j'eus l'ennui de réussir. Si j'avais échoué, si ces mauvais fils avaient persisté, tout le pays, en les blâmant, eût vanté ma noble opposition. Et j'aurais retiré plus d'avantages d'une belle action qui, précisément, ne m'eût rien coûté. À 8 ans, on me mit au collège, aujourd'hui lycée de Digne. On me retira bientôt de cet établissement insuffisant et j'ai fait la plus grande partie de mes études au lycée de Marseille. Je fus toujours dans les premiers de ma classe. Même ma période brillante entre toutes fut celle de mes études de droit. Je fus reçu docteur avec 5 boules blanches. J'aurais voulu, après ces succès de bon augure, me livrer tout entier à la noble science de l'économie politique, la plus belle création des 18e et 19e siècles, celle qui nous vaudra l'estime de l'avenir. Mon patrimoine, trop réduit par le grand nombre d'intrus, j'appelle ainsi mes frères et mes sœurs, être grossiers qui ont voulu quitter très jeunes le collège ou la pension et qui n'ont jamais donné à mes parents et à moi que des sujets de plainte, ne me permit point de suivre sans entrave ma vocation. Je choisis une carrière libérale estimée qui entoure de sécurité et de considération. J'entrai dans l'enregistrement. À 28 ans, étant déjà receveur à Sisteron, Je fis un mariage passable. Ma femme m'apportait 50 000 francs de dot et d'assez belles espérances, qui avaient le tort de paraître bien éloignées. Malgré le peu de loisirs que me laissaient mes devoirs professionnels, j'avais publié successivement plusieurs mémoires d'économie politique. Notre gouvernement, qu'on calomnie beaucoup trop, m'en avait récompensé par les palmes académiques et par le mérite agricole. Mon dernier travail, celui qui m'avait valu le ruban vert, était une statistique très soignée des déprédations dont une espèce de fourmi, l'Aphoenogaster barbara, se rend coupable à l'égard de nos blés. Le 11 avril 1897, j'étais allé me promener sur un plateau voisin de Sisteron, en un lieu nommé Chambrancon. Couché sur le ventre, posture peu convenable en elle-même et que pouvait seul excuser l'amour de la science, j'étudiais les mouvements d'une fourmilière. Un doute m'était venu sur un détail affirmé dans ma brochure d'après un autre observateur. Je voulais vérifier et, en cas d'erreur, enrichir d'une note la seconde édition de ma statistique des déprédations de la Phoenogaster barbara à l'égard de nos blés. Avec cette patience qui, au témoignage de Buffon, suffit à former le génie, j'examinais les prévoyants insectes. Tout à coup, sans que, du fond de ma préoccupation, j'eusse entendu le moindre bruit de pas, des paroles m'arrivèrent, étranges de sonorité douce, étranges de sens. « Bonjour, bonjour, disait-elle, je suis une fée. » Mon esprit traduisit en grande vivacité « Tu es une folle. » Je me sentais hostile à la nouvelle venue. Il y avait une discrétion insolente à troubler ainsi mes travaux par des paroles mystificatrices. Et il m'était pénible, même dans la liberté d'une campagne déserte, d'être surpris, couché sur le ventre, par une femme qui sans doute ne comprenait rien aux exigences de l'observation scientifique. Je me dressais en une hâte, comme pressé par un aiguillon. D'une main rapide, je secouais la poussière de mon pantalon et je regardais la fâcheuse. Ses vêtements, en dehors de toute mode, draperie plus que robe, suivaient à grands plis jaunes les courbes de son corps. Un ignorant les eût trouvés ridicules seulement. Je sentais aussi vivement que tout autre combien ils étaient peu convenables dans notre monde moderne. Mais ils ne me blessaient point comme de l'inconnu. Ils éveillaient en moi des souvenirs de tableaux. Et sans doute je les aurais trouvés ingénieusement beaux si, au lieu de courir les champs, ils s'étaient manifestés dans un bal travesti. De cette harmonie noble qui eût été un charme sans sa blessante inopportunité, émanait un parfum délicieux et sans analogue. J'en donnerais une idée bien fausse et bien grossière en le comparant à quelque mélange de thym et de lavande qu'on aurait atténué par je ne sais quel moyen rendu léger, discret et à la fois plus pénétrant. La femme, qui portait cette atmosphère caressante et ses étoffes emphatiques, était belle mais d'une de ces beautés déroutantes, inutiles, qui n'éveillent point le désir. Elle était trop grande, aussi grande que la Vierge assise par le Vinci sur les genoux de Sainte-Anne, et dont la taille excessive est blâmée par la plupart des critiques autorisées. Le défaut choquait d'autant plus qu'elle se tenait debout, la tête raide en une fierté. Ses longs et fins cheveux se déroulaient librement, recouvraient les épaules comme d'un camail noir et se mariaient avec le jaune de la robe, en une harmonie agréable. Le visage ressemblait beaucoup à celui de la Vierge de Léonard dont je parlais tout à l'heure. Seulement, il était moins plein, d'une grâce et d'une malice plus jeunes encore, presque puériles. Ce qui faisait avec la grandeur extrême de cette personne et l'orgueil de son attitude un contraste bizarre, charmant et pourtant irritant. Je n'aime guère que la beauté soit étrange. Je la veux faite de régularité et de santé, résultat de l'obéissance à toutes les lois de la vie. Je sentis qu'il y aurait inconvenance à continuer mon examen silencieux. Et je dis, avec le sourire de quelqu'un qui daigne condescendre à une plaisanterie, « Bonjour, mademoiselle la fée. » Elle souriait déjà, et ses yeux brillaient comme brillent les yeux fous. Mon salut ajouta des rayons à son sourire, et son regard devint un feu de joie. « Ah, dit-elle, toi au moins, tu n'es pas un négateur. » Je reculai d'un pas, je toisais l'impertinente personne, et je fus remarqué, très digne, « Mademoiselle, les receveurs de l'enregistrement n'ont pas l'habitude d'être tutoyés par... » J'eus un instant d'hésitation. Je pensais par les coureuses. Mais une pitié me vint de sa folie trop évidente. Je me contins et j'achevai ma phrase de façon moins blessante, quoique très ferme encore. Les receveurs de l'enregistrement n'ont pas l'habitude d'être tutoyés par les premiers venus. Elle fronça le sourcil, marcha sur moi, impérieuse et dominatrice. À cet instant, sa beauté intimidante et absurde me fit songer ces mots, une reine folle. Toutefois, elle souriait de nouveau avec une indulgence qui eût dû m'offenser quand elle répondit « Les fées sont des grammairiennes logiques, elles n'emploient pas le pluriel en s'adressant à un seul. Si ça te blesse en français, je te parlerai latin. » Elle étouffa un rire, et prolongeant sa grande taille dans une révérence moqueuse, elle dit « Salue, praepositae publicis tabulis exator. » Puis se redressant, la physionomie très amusée, « Il y a des titres un peu grotesques quand on les traduit. » J'étais écrasé de stupeur. Elle parut flattée de mon silence admiratif. D'une voix qui n'était presque plus insolente, elle expliqua « Respectable receveur de l'enregistrement, je n'eus jamais l'intention de t'offenser. Au contraire, je voulais te remercier de n'avoir pas nié mon titre de fée, comme font tous les imbéciles que je rencontre. » Son sourire devint aimable. Sa beauté écrasante se recouvrit comme d'une séduisante joliesse. Ainsi se transfigurent dans la joie d'amour certains visages hautains. Et elle disait, d'une voix qui chante et qui pénètre, « Écoute, ami, nous sommes nous autres des remercieuses actives. Nos paroles sont des attelages qui courent traînant derrière eux le bienfait. Exprime un désir et ma puissance s'exercera en ta faveur. » La folie est contagieuse. Voici que moi, un homme raisonnable, un receveur de l'enregistrement, un docteur en droit, un économiste, je me dis un instant, une fée, qui sait, après tout, nous ignorons tout. Et certes, ce ne fut qu'un éclair de démence, aussitôt éteint dans l'immensité sombre d'une honte. Mais je n'eus plus le courage de m'éloigner de l'être bizarre et poétique. Je me sentis incapable de mécontenter la reine folle. Je consentis à faire ma partie dans son jeu, à donner ma réplique dans la féerie. Je répondis « Immortel, pardonne à la grossièreté les vœux d'un mortel. J'ai déjà la santé et l'intelligence. Les femmes me trouvent beau. Que désirerais-je sinon la fortune ?»« Qu'appelles-tu fortune ?» je précisais. « Admire la modération d'un sage ou tout au moins ne méprise pas la médiocrité de mes désirs. Oh, le petit million me suffirait. Mais tu auras ton million, affirma-t-elle. Je demandai plus vivement que je ne l'aurais dû. Quand ? Oh, dans 15 mois. Je la pressai encore. Mais pourquoi pas tout de suite ? Mais la fée eut cette réponse digne d'une femme ordinaire. Parce que. Et elle ordonna. Forme un second vœu. Après une longue réflexion, j'eus une moue d'indifférence et mes bras soulevèrent légèrement un geste embarrassé. « Bon, je vois pas ce que je pourrais demander. » Je repris avec hésitation, avec crainte. « Être ministre, peut-être ? » ?»« Tu le seras dans 5 ans, si tu le désires encore. » Cette promesse, même si je l'avais prise au sérieux, ne m'eût pas donné grande joie. Cette fois, je ne réclamais point, pourquoi pas tout de suite. Mais la fée m'aiguillonnait. Exprime un troisième vœu. Bien que tout ceci dans ma pensée fût plaisanterie et bavardage, ma modération naturelle se révolta et je dis « Mais je n'ai plus rien à désirer. » « Quoi ? » s'écria la reine folle. « Tu ne demandes rien pour ton âme ?» Je protestais. « Mais j'ai tout demandé pour mon âme. La fortune me permettrait de me donner sans réserve à ma chère économie politique. Je vivrais à Paris, au milieu d'une société intelligente. J'assisterais aux premières. » Elle m'interrompit méprisante. « Et c'est ça que tu appelles des joies de l'âme, pauvre homme, qui n'est même pas curieux. » Oh, par exemple, pas curieux, moi. Eh bien, et mes travaux de statistique ? » Elle ne daigna pas répondre. Elle s'assit sur l'herbe, me fit signe de l'imiter. Délicatement, ses doigts cueillirent une fourmi. Elle la considéra avec un sourire étrange. Puis elle demanda « Tu n'as jamais désiré savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un autre animal ?» Mon orgueil d'homme s'exprima. « Oh, il doit s'y passer si peu de choses. »« C'est ce qui te trompe, affirma-t-elle. Veux-tu faire l'expérience ? Veux-tu que je te change en fourmi ?» Je fus pris d'une grande pitié pour cette femme admirable qui était une folle. Et je crus voir un moyen de la guérir, lui démontrer son impuissance. J'évitai les maladresses de mes premiers vœux. Je commençai par couper toute retraite à la présomptueuse. Et d'un ton incrédule, je sifflai presque à me changer en fourmi. Quand ? Mais à l'instant même, dit-elle, je répliquai, gouailleur, ah, comment feras-tu ? Tu as oublié ta baguette. Mais elle, crois-tu qu'un roi soit obligé de prendre son sceptre pour donner un ordre ? D'ailleurs, si tu désires voir les signes extérieurs de ma puissance, sois satisfait. Et par je ne sais quel tour de prestidigitation, elle eut entre les doigts une sorte de bâton de chef d'orchestre. La fourmi qu'elle avait ramassée tout à l'heure fut sur cette baguette, s'y promena hâtivement en une terreur éperdue. Elle se précipitait vers l'extrémité, puis, brusquement, comme si elle se fût heurtée à un obstacle invisible, se rejetait en arrière. La reine folle sourit à la fourmi, et elle lui dit « Calme-toi, je ne te veux aucun mal. » La fourmi, comme si elle avait entendu et compris, s'arrêta. Et pour s'occuper, elle se mit à faire la toilette de ses antennes. De nouveau, l'étrange jeune fille s'adressait à moi. « Alors tu veux devenir ce petit animal ?»« Je le veux, » Et tu ne poses aucune condition, interrogea-t-elle. Tu ne fais aucune réserve. À quoi bon? Elle s'exclama. Imprudent! Elle me regarda avec une douceur infinie. Puis son œil s'alluma d'une flamme ironique, et ses mots vinrent à moi, tels des femmes tentatrices s'approchent, gracieuses, coquettes un peu, ondulations hésitantes qui avancent, mais que le moindre geste vers elles refoulerait. Et le million qui doit échoir dans 15 mois, monsieur le receveur de l'enregistrement, que faut-il que j'en fasse? Je ne voulus pas être en reste de moquerie, et malgré l'émotion dont me faisait frissonner le mot « million », je rétorquai. Tu m'as fait des promesses contradictoires pour un pauvre esprit mortel. À toi de les tenir toutes. C'est simple, dit-elle. Tu seras fourmi 1 an seulement. L'arrangement te convient-il ? Moi, je l'accepte. Elle insista. Et tu ne demandes rien d'autre chose. Tu ne vois pas d'autres précautions à prendre. Non, je ne vois pas. Mais elle, dans un éclat de rire. Oh, quels étourdis que ces receveurs de l'enregistrement. Mais quel avantage retirerais-tu du voyage si tu oubliais d'emporter un peu de mémoire? Il te faut encore la faculté de penser en homme aussi bien qu'en fourmi. Je m'écriai, pauvre reine folle, mais de l'impossible, tu tombes dans l'inconcevable. Comment le cerveau ridiculement petit d'une fourmi porterait-il une pensée d'homme? Et elle dit, injurieuse, moi, la pensée d'un homme de génie l'écraserait peut-être, mais l'esprit d'un homme ordinaire pèse peu. Après un silence, elle reprit. Bon, je ne te garantis pas d'ailleurs que ta pensée double ira sans grande souffrance, mais rarement tes deux esprits seront des lumières simultanées. D'ordinaire, une seule éclairera ta conscience. Et pourtant, parce que le second être restera là, invisible, mais présent, toujours sur le point de se confronter à son voisin, et de le maudire, et de le contredire, et de le nier en une querelle hurlante, toute pensée te sera pénible, anarchique et chaotique, jusqu'à la folie, ou presque. Tantôt, l'habitude humaine rythmera à faux ta pensée de fourmi, affolera la fourmi pensante, et tantôt ton cerveau de fourmi, instrument de précision et non outil de labour, grincera la lourde pensée humaine comme un fin scalpel dont on exige le labeur d'une bêche. Elle parlait en une attitude accablée, la tête penchée, les bras tombants, les mains touchant presque le sol. Le sourire avait disparu de ses lèvres, et ses yeux étaient deux fleurs de tristesse. Mais elle redressa son buste, son regard s'éclaira, sa bouche eut un frémissement qui peu à peu entr'ouvrit un sourire vaillant. Ses bras se relevèrent, sa main libre vint soutenir son menton, et elle recommença d'une voix qui pleure encore, mais qui déjà encourage. Sois brave, ne recule pas devant la douleur intellectuelle, c'est un ennoblissement. La pensée est celle dont les limites sont inconnues, mais elle n'est calme que si elle se replie petite sur elle-même, se renferme en son terrier aveugle. Aussitôt qu'elle en sort, aussitôt surtout qu'elle cède à son instinct de s'élargir et de monter plus haut et de descendre plus profond, voici qu'elle souffre par toute sa surface, car les choses entrent en son agrandissement comme des épines et des clous entreraient dans un corps. Et elle méprisa ma tranquillité. Enfant pauvre, ta pensée s'ignore, ne s'étant encore heurtée à nulle autre pensée. Elle leva sa baguette, retendit vers mon front en un mouvement solennel qui brusque s'arrêta. « Ah, j'oubliais !» murmura-t-elle. Elle ouvrit une parenthèse irritée. Mais aussi pourquoi cet être banal ne sensit même pas aux détails pratiques. Et elle m'injuria violemment. « Mais imbécile, si je te transformais en fourmi sans autre précaution, toute la fourmilière se jetterait sur l'intruse et tu périrais en horrible supplice. Il faut que tu sois une fourmi de cette fourmilière. » Je me moquais. Oh, « En cas d'accident, tu m'aurais ressuscité ?» Je ne sais pas si elle entendit ma remarque ironique, mais elle la négligea pour continuer sa pensée. « Mais tu ne demandes pas non plus, s'indigna-t-elle. Comment tes frères, les hommes, te recevraient après ta longue disparition, après qu'ils se seraient partagés tes dépouilles et que leur rang serré aurait effacé ta place dans la vie sociale ?» Elle réfléchit un instant. Puis, « Tu seras pendant un an la fourmi qui est sur ma baguette, et cette fourmi, pendant la même année, sera Monsieur Octave Pédittan. » « C'est cela, » dis-je en riant, « une simple permutation. » Je n'en dis pas davantage. La baguette avait touché ma tête. J'étais fourmi. Il semble que la secousse d'une telle métamorphose devait laisser un durable souvenir. Il n'en est rien. J'étais l'homme l'instant auparavant, maintenant je n'étais plus. Mais il n'y avait pas eu de transition, pas de passage aperçu, pas de point intermédiaire auquel la mémoire puisse se raccrocher. Et je me souviens seulement de cette pensée, ou plutôt de cette stupeur. Tiens, c'est vrai, je suis une fourmi. Je m'étonnais pourtant beaucoup moins en songeant. Tiens, c'est vrai, c'était une fée. Mais voici, d'autres effarements, d'autres affolements plutôt, entraient par mes yeux, entraient, j'allais dire par mes oreilles, mais je n'avais plus d'oreilles. Je voulus fuir, me réfugier sous terre dans la fourmilière, ne plus voir, ne plus entendre tout cet impossible. En vain, je courus au bout de la baguette, essayais de me laisser tomber sur le vêtement de la fée pour descendre par le plus court au souterrain sourd et aveugle où ma folie s'apaiserait, s'endormirait. Mais une force invincible m'attachait à la baguette. La fée voulait que tout de suite, malgré mon anéantissement, je regarde, que tout de suite je sache que l'univers de l'homme n'est pas l'univers unique et nécessaire, mais que ce sont nos yeux qui créent notre monde. Elle voulait que désormais ces termes philosophiques, relativité de la connaissance, que j'avais prononcés mille fois comme vous tous, fussent pour moi autre chose que des mots. Je n'avais point de paupières pour me protéger contre le monde affolant qui malgré moi entrait en moi. Et mon regard, au lieu de dire seulement ce qui était en avant, me criait confusément tout l'impossible qui m'entourait. Les lois du langage me forcent à détailler ma stupeur, à en faire, pour ceux qui me lisent, des étonnements séparés, successifs, amusants peut-être. Leur simultanéité les rendait écrasants. Il n'est pas désagréable de boire un petit coup à loisir. Le noyé en qui l'eau entre irrésistible par tout ce qu'il y a d'ouvert en lui suffoque et meurt. Je m'étonne de n'être point mort au moment où, comme dans un milieu irrespirable, je fus plongé suffocant dans cet autre univers. Songez d'ailleurs, je ne pourrais vous dire que le moins extraordinaire, vous faire boire que le moins asphyxiant. Dans les impressions d'un autre animal, tout ce qui est vraiment singulier, puissamment caractéristique, sans analogue avec les sensations de l'homme, ne saurait être balbutié par aucun mot humain, ne saurait même être repensé par mon esprit redevenu exclusivement humain. Comment bégayer ce que devint pour moi en cette minute d'agonie l'univers coloré? Toutes les nuances étaient nouvelles, sans nom, sans rapport avec aucun souvenir. Pour vous en dire quelque chose, je suis obligé de supprimer précisément leur nouveauté terrassante, de donner dès maintenant et à la fois des explications familiarisantes que j'ai eues beaucoup plus tard, peu à peu. Il me faut détruire, par des analyses dont j'étais bien incapable en ce moment, la synthèse folle qui m'écrasait de tous côtés comme un formidable étau m'enveloppant et fait sur mesure. Des observations innombrables me l'ont appris depuis. Mes yeux de fourmi ignoraient deux des couleurs humaines. Les cheveux noirs de la fée et ses vêtements jaunes formèrent pour mon goût d'homme une harmonie agréable. À présent, les vêtements étaient noirs comme les cheveux. Et ce noir n'était aucun des noirs que vous connaissez. Du même noir encore plus brillant et plus vibrant que ce que vous appelez noir, étaient les herbes tout à l'heure d'un vert tendre, et la lumière blanche, à laquelle manquaient les rayons jaunes et les rayons verts, et qu'illuminaient des rayons inconnus, n'était pas blanche à mes yeux nouveaux. Il y a des rapports entre les sensations de l'homme et les sensations de la fourmi que je ne pouvais deviner, que je connais seulement par des expériences faites depuis que je suis redevenu homme, sur mes amis d'un an. Je sais aujourd'hui, comme d'autres entomologistes, que le vert et le jaune exceptés, toutes les couleurs du spectre humain affectent la rétine des fourmis. Mais je sais aussi, ce dont ils ne se doutent guère, qu'elle l'affecte tout autrement que notre rétine. Le violet, l'indigo, le bleu, l'oranger et le rouge sont des couleurs pour la fourmi comme pour l'homme. Mais la fourmi ne voit aucun objet violet, aucun objet indigo, aucun objet bleu, aucun objet orangé, aucun objet rouge. Au cours de mon récit, il m'arrivera peut-être d'indiquer une couleur avec les noms que vous employez, de dire par exemple que l'Amazone est une fourmi rouge. Mais sous ma plume, le mot rouge désignera les rayons, cause commune de deux sensations irréductibles, et non l'inexprimable vision de mes yeux de fourmi. En outre, les rayons ultraviolets que l'œil humain ignore créent pour la fourmi de nombreuses couleurs que je ne saurais indiquer d'aucune façon. La seule chose exprimable, c'est que l'univers coloré de la fourmi est plus varié et probablement plus vaste que l'univers coloré de l'homme. Les nuances y sont innombrables, et quand, pour les ramener à quelques couleurs fondamentales, j'ai examiné l'arc-en-ciel, je n'ai jamais pu y compter moins de 20 couleurs. Cette richesse extrême est-elle donnée à l'insecte par la partie inconnue de son domaine, ou est-elle produite par une sorte d'analyse fécondante? Pour lui, y a-t-il une douzaine de couleurs ultraviolettes, ou la région bleue du spectre, par exemple, se divise-t-elle en 4 ou 5 couleurs? Je n'ai aucun moyen de résoudre le problème. J'ignorerai toujours si, au pays des couleurs, la fourmi connaît de vastes et nombreuses terres où votre œil ne pénétrera point, ou si elle prend pour des royaumes telles étendues qui vous semblent de simples provinces. On devine sans peine que le brusque changement de proportion des êtres et des choses devait peser sur moi comme un affreux cauchemar. La baguette sur laquelle je m'agitais était pour mes yeux un énorme tronc d'arbre. La fée, dont j'admirais tout à l'heure la sveltesse, était devenue une montagne informe. Elle me permit de me promener sur sa main. Un fin duvet, que mes yeux d'homme n'avaient pas aperçus, se hérissaient comme les hautes herbes d'une prairie, et les pores s'enfonçaient, trop disgracieux, dans les soudaines rugosités de ce grossier terrain. Une autre montagne était auprès, je me dis, c'est mon remplaçant. Je supposais qu'il portait mes vêtements et j'étudiais leur étrange couleur en songeant. Voilà donc ce qu'est le gris pour les yeux de fourmi. Je fus jaloux du nouveau pénitent. Sûrement il ne souffrait pas autant que moi. Il n'avait sans doute que la pensée humaine, ne sentait pas en lui le heurt de deux êtres. Il n'était pas poursuivi comme moi par un affolé qui pense avec des organes impropres à sa pensée. Il n'était pas torturé par un esprit transporté dans un autre cerveau et qui, en ce milieu d'agonie, comme un poisson en notre air trop subtil, s'agite de frémissements de soubresauts et qui toujours a le temps, n'aura jamais de nom pour rien nommer de cet univers informe pour lui, inorganisable, réfractaire, à son emprise de ce terrible univers vu avec les yeux d'autrui, avec des yeux si différents, si déformateurs. Et puis, j'en avais l'impression angoissante, exagérée, juste pourtant, l'univers que mon remplaçant commençait à connaître était moins varié que celui que je devais apprendre. L'éducation de cet heureux serait relativement facile, tandis que la mienne me paraissait impossible. Tout m'inquiétait. Je voyais vers le sommet de chaque montagne un abîme affreux qui s'ouvrait et se fermait. Derrière les battants de la première porte, l'entrée de la caverne apparaissait défendue par deux barrières superposées, faites d'étranges rocs, et qui s'écartaient, se rapprochaient comme pour des cataclysmes. Après de longues réflexions terrifiées, je devinais que ces gouffres mouvants étaient les bouches des deux êtres, et que la fée causait avec pénitent. Mais j'étais effaré de ne rien entendre de cette conversation, qui me semblait-il eût dû gronder comme un tonnerre articulé. Leur causerie discrète dépassait, bon, je le compris plus tard seulement, ce qu'un physicien appellerait le maximum audible de la fourmi. J'étais sourd à tous les bruits perceptibles pour l'homme, trop forts pour moi, et j'entendais énormes des murmures trop faibles pour que la grossière oreille humaine ne saurait recueillir. Dans les veines de la main sur laquelle je m'agitais, le sang coulait avec un fracas de torrent. Et quand je m'éloignais du tumulte assourdissant, quand je me réfugiais sur la baguette silencieuse, cette heure de midi accablement si calme pour les hommes de la campagne, se peuplait soudain de cris, de crépitations, de frémissements. La douce odeur de thym et de lavande que répandait la fée et qui fut un charme à mon odorat humain, à présent m'était intolérable, comme m'eût été intolérable l'instant d'auparavant, l'odeur d'un charnier. J'aurais voulu crier à ma persécutrice, « Mais laisse-moi, je vais mourir, puisque me voilà fourmi, laisse-moi vivre ma vie de fourmi. Oh, que je suis lasse, j'ai besoin de sommeil. Ne sens-tu pas que cette veille dans un monde hostile d'inconnu est une agonie à laquelle je ne résiste pas? Grâce, grâce !» Mais je n'avais plus d'organes pour dire des mots qu'elle put entendre. Mes antennes, avec quoi je parlerai désormais, à condition de rencontrer d'autres antennes, s'agitaient désespérées. J'eus une inspiration bizarre, et quoiqu'elle me semblât absolument folle, je la suivis. Dans la prairie qu'était pour moi cette main, je choisis deux herbes parmi les plus souples et comme si elles étaient des antennes, je leur dis ma souffrance et mon désir. Les fées, sans doute, sont en rapport avec tous les mondes et savent tous les langages. Les deux poils firent en effet fonction d'antenne. Me répondirent à peu près « Va, ma pauvre amie ». Et la force méchante qui me retenait se détendit, se dissipa. Je courus, fuis en univers fou. D'un grand élan, j'entrai dans la fourmilière. Sans rien regarder, je m'enfonçai en un coin bien obscur. Je tombai, je m'endormis. Mon sommeil très long traversa toute l'après-midi puis toute la nuit. Il dut être d'abord un tunnel profond, sourd et aveugle comme un mort. Mais ensuite, il remonta vers la vie, et son opacité insuffisante, crevée de jours de souffrance, fut pénétrée par d'étranges lueurs de cauchemar. Je retrouve un des songes qui me poignardèrent comme des larmes de lumière. Je retrouve celui-là parce qu'il me frappa bien des fois encore pendant l'année, parce que ma veille aussi fut souvent blessée de la même peine. Je me sentais étourdi. Tout le côté gauche de ma tête semblait pris sous un écrasement. Au milieu, comme si en ce point deux êtres se chicanaient, deux écoliers hostiles l'un à l'autre, et qui, en se cachant, se pousse, s'efforce de conquérir sur le voisin un peu de place, une torture bousculante. J'essayais de voir ce qui se passait dans ma tête. Je comprenais bientôt. Je souffrais de la dualité de ma pensée, et deux images surgissaient simultanées et méchantes. Sur mon cerveau, plateforme douloureuse, à droite une fourmi m'apparaissait gracieuse et noble, et ma pensée de gauche, si lourde, si grossière, était un homme dressé de toute sa hauteur, le regard lointain, et dont les deux pieds pesaient sur une moitié de ma tête, me faisait pencher de ce côté, presque tomber. Les deux images, les deux pensées, n'étaient en pleine conscience que le temps d'un éclair. Je crois que je serais mort si ce déchirement avait duré. Bientôt, les deux ennemis s'atténuaient, devenaient des fantômes flottants, disparaissaient. De leur présence de tout à l'heure, nulle trace lumineuse. De leur prochain retour, nulle menace précise. Rien que la vague douleur médiane, l'étourdissement de toute la tête, l'écrasement du côté gauche. Puis mes deux bourreaux reparaissaient, non plus adversaires hypocrites qui dissimulent leur lutte, mais querelleurs et criards ennemis qui se battent sans souci du spectateur. L'homme, d'un mouvement du pied qui creusait tout le long de mon cerveau de douloureux sillons, poussait la fourmi, la faisait tomber à droite où elle s'agriffait désespérée. Après, pendant quelque temps, je pensais à l'homme, en homme, et je dressais péniblement de branlantes architectures de souvenirs. Plus souvent, la fourmi injuriait l'homme. Les antennes s'adressaient à deux poils de l'orteil, et leur indignation criait en quelque sorte. « Va-t'en, disaient-elles, pauvre qui n'a que sept couleurs au trésor de tes yeux !» Et plus tard, quand je pus mieux comparer les richesses d'un esprit de fourmi et les indigestes de l'organisation humaine, elles ajoutaient, les orgueilleuses antennes, bien d'autres mépris à ce premier mépris. Elles disaient surtout « Misérable qui n'a que cinq sens, va cacher ta honte, en la sombre tanière aux cinq étoiles, étroite fissure. L'homme, humilié par ses dédains mérités, se rapetissait, se laissait renverser. Mais toujours, hélas, de ses doigts recourbés, de ses ongles qui déchirent, le nain suspendait sa chute inachevée, restait accroché au milieu de la brute précipice, d'où tout à l'heure il se dresserait grandissant et remonterait m'écraser de son poids brutal. À mon réveil, il me fallut assez longtemps pour me reconnaître. Puis je sortis, heureux comme un enfant qui court à un beau spectacle. Ma pensée d'homme avait disparu. J'étais dans l'allégresse d'une unité qui se forme, d'une vie qui commence, d'une curiosité qui va plonger ses jeunes organes dans la fraîcheur exquise d'un bel univers tout neuf, non encore fané à la lessive répétée de l'habitude. L'heureux jour que ce 12 avril, où, sans retour en arrière, j'acceptais ma nouvelle condition, consentais à jouir de mon bonheur. Quelle gamme de plaisir que la gamme de toutes ces couleurs inconnues et si riches! Quelques-unes me blessaient par leur violence. Celles, oh, je le sus plus tard, qui correspondent à votre violet et à votre rouge. Mais les autres, si nombreuses, si communément répandues dans la nature, étaient des bonheurs. Il y en avait d'une douceur si pénétrante. Pour une immodeste violette, dont la couleur brutale heurtait mon regard comme un coup, que de pâquerettes charmantes au cœur sombre. Le jaune des hommes était pour moi un écran obscur et joli, une soie noire, aux pétales lumineux. Je ne dis pas aux pétales blancs, car votre blanc grossier était aboli, remplacé par une nuance ineffable, une nuance que vous retrouverez peut-être, chrétien, votre paradis. Et combien était adorable la lumière du matin! Quel me fut un éblouissement direct, inondant, ou qu'elle m'arriva, fine pluie de joie, tamisée par le noir exquis des verdures, elle me pénétrait d'un enchantement si nouveau, si étonné. L'enchantement de l'aveugle né qu'on vient d'opérer et qui enfin voit. Je voyais, je voyais. Je payais de quelques pertes mes admirables acquisitions, mais je n'étais pas encore en état de les compter. Et puis, c'était peu de chose, cette rançon. J'étais, malgré elle, merveilleusement enrichi. J'aurais pu la connaître sans me plaindre. Et le jour où j'ai hérité de 2 millions, j'ai su de point maugréer contre les exigences du fisc. Je m'en aperçus plus tard. Mon œil, ce récepteur de joie, était plus faible que l'œil humain, resserrait le spectacle précis dans un cercle plus étroit, saisissait d'une étreinte molle les formes éloignées. Mais, compensation qui me charmait, je voyais à la fois en avant, en arrière, et à droite, et à gauche, et au-dessus de moi. Je ne pouvais me rassasier du miracle de cette vision si richement panoramique. L'horizon tout entier noyait mes yeux comme un étrange bonheur synthétique, et je haletais presque de volupté à boire ainsi à la fois toute la beauté qui m'entourait. Et la représentation puissamment inattendue que mes organes originaux créaient avec des décors usés hier était un opéra. Dans cette lumière inconnue et rajeunissante, la richesse des choses vues s'accompagnait de la richesse des sons. La terre, par chaque brin d'herbe agité de la brise, par chaque caillou réchauffé d'un rayon, par chaque motte joyeuse d'échapper à l'hiver, chantait l'ivresse du renouveau. Et les pas de mes sœurs, les fourmis, les bruissements d'ailes de nos amis les pucerons, le vol des papillons et des oiseaux, la marche de tous les insectes qui se révélaient à moi, formaient des harmonies de sons en même temps que des harmonies de couleurs et des harmonies de mouvements. Ah, le merveilleux ballet qu'était la nature en ce matin du 12 avril. Et les parfums, n'étaient-ils pas aussi des rythmes chantants et dansants, des bouquets d'ondulations et de mélodies? Il me semblait les voir flotter, et je croyais les écouter aussi, les aspirer comme une musique plus pénétrante peut-être que l'autre. Certes, je ne pouvais supporter les senteurs aimées des hommes, senteurs lourdes et blessantes comme des massues. Tout à l'heure, penché sur sa tige comme une fille à sa fenêtre, une violette m'avait fait fuir par la brutalité de son arôme autant que par sa couleur agressive. Mais les vrais parfums, les parfums délicats qu'ignoreront toujours vos gros organes, me grisaient jusqu'à l'énervement. Certaines émanations que vous connaissez et que vous n'aimez point mettaient des cordiaux et des rafraîchissements. Un courage me venait de l'odeur de chacune de mes compagnes. Mais la joie de cette journée est bien impossible à dire. Il me semble que j'ai fait un rêve de paradis. J'en retrouve inexprimable d'informes débris. Je me rappelle, vague, les voluptés de mes regards, les voluptés de mon odorat, mes voluptés musicales, parce que j'ai encore des organes qui peuvent goûter des plaisirs analogues, bien lointains, certes, de ceux dont j'ai joui, mais capables pourtant, sourds échos de voix éloquentes, de les rappeler un peu. Ici, j'essaie par la faiblesse branlante des mots de dresser la Vénus de Milo devant des yeux qui ne connaissent que la Vénus hottentote. Je sens toute la vanité de ma tentative. Mais je n'essaierai même pas de dire la beauté féminine à la pierre du chemin. Et par tant de sens absents, vous êtes fermés comme des pierres. Quel balbutiement d'extase vous indiquerait les joies de sens que vous n'avez pas, que vous ne pouvez par aucun moyen vous représenter. Et je ne puis plus maintenant, que je suis réduit à votre condition, me les représenter à moi-même. Au moment du retour à la vie humaine, au moment de l'anamorphose, j'ai perdu, hélas, ma riche pensée de fourmi. Ma mémoire, aujourd'hui, dépend de mes organes indigents. Elle n'a pu conserver les souvenirs d'organes sans analogue. Là, je suis un pauvre, comme vous. Seulement, j'ai des regrets inexprimables, impossibles à préciser pour mon esprit, d'horribles regrets sans souvenir, ballottés dans l'obscurité de l'imbe, des regrets de damnés qui ne peut même en imagination jouir une seconde de l'architecture du ciel. Je regarde mes mains dénuées et sèches, et je me désespère, songeant que tout un fluide trésor a coulé entre mes doigts, et que je n'en puis retrouver une seule goutte.